RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, ballotté en top 14, même pas assuré de disputer les phases finales, l'UBB a encore prouvé ce dimanche que sa compétition favorite restait bien la Champions Cup. Pour la deuxième année d'affilée, les hommes de Yannick Bru ont donc décroché de haute lutte leur billet pour la finale en disposant des Anglais de basse, un parcours sans faute pour les Girondins qui décrochent là leur 15e succès d'affilée dans cette compète où ils sont invaincus depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Une spirale de succès que les Bordelais doivent à leurs stars, les Jalibert, Bielbiaré, Gazotti, mais aussi et peut-être surtout à leur capitaine Maxime Lucu. À 33 ans, le demi de mêlée de l'UBB semble être au zénith de sa carrière, alors que la France du rugby lui préfère souvent les Dupont et autres Serin ou encore Le Garec. Est-ce injuste et doit-on aujourd'hui considérer comme le meilleur numéro 9 français? Les poteaux osent aujourd'hui cette question que certains jugeront incongrue, avec comme arbitre suprême l'ancien meilleur demi de mêlée français international à 61 reprises, finaliste de la Coupe des Champions à 2 reprises. C'était avec Biarritz au début des années 2000. Dimitri Yachvili sera avec nous dans quelques minutes. Et pour l'interroger et débattre avec lui, Denis Charvet, Nicolas Paolorsi sont également de la partie. Salut mon Denis.
Salut Christophe.
Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Bon, on est ravis de discuter de tout ça avec oui. Dimitri qui sera avec nous dans un instant. Tout n'a donc pas été facile ce dimanche pour l'UBB face à une redoutable équipe de basse, mais comme depuis 2 ans, les Bordelais ont su faire front pour envoyer les Anglais de l'autre côté de la Manche tout en se qualifiant pour la finale, la deuxième d'affilée, qui les conduira dans 3 semaines à Bilbao, la capitale du Pays Basque espagnol, la plus grande ville en tous les cas. Une occasion que Lucu, l'enfant de Saint-Jean-de-Luz, ne pouvait rater pour rien au monde.
Oui. Marco Gazzotti, il me semble, sur ce soutien de Maxime Lucu qui a éjecté le ballon à une vitesse phénoménale. L'essai anglais, la réponse de basse marquée par l'anglais Wilmuir, superbe jeu au pied là de Ben Spencer. L'essai bordelais, Louis Bielbiaré, 8e essai de la compétition pour le meilleur joueur du dernier tournoi destination. Le retour de Lucu, oh, il y a essai, j'ai l'impression qu'il y a essai inscrit par Wilmuir à vitesse réelle.
Il y a essai, c'est magnifique. C'est magnifique.
Jalibert qui fonce la passe pour Huberti. À l'intérieur, il y a Lucu. Lucu qui la récupère. Lucu pour Moefana. Oh, pas lu. Oh oui. Oh oui. Oh non, il est plaqué à 2 mètres. Même pas à 30 cm. Faut la relever. Maxime Lucu. Essai. Oh, est-ce qu'il a aplati? Ouais, essai. Union Bordeaux-Bègles. Quelle séquence. Essai anglais. Ils ont fini par le marquer, cet essai. Il est loin d'être terminé ce match. Quelle débauche d'énergie. Et on fait jouer la puissance des gros essais. Essai bordelais. Par Big Ben Tamei Founa. Le ballon est tombé, c'est et c'était Momadjou. Bordeaux va défendre son titre à Bilbao. Quelle séquence encore de l'UBB qui ne s'arrête pas de jouer. Ça fait 36-19 à 3 minutes de la fin. Bordeaux va pouvoir défendre son trophée en Champions Cup face au Leinster.
Voilà, la victoire finalement acquise sur le score de 38-26, 5 essais inscrits par l'UBB, même si ce n'est pas uniquement là-dessus que les Bordelais ont construit leur victoire, hein, un succès qu'ils doivent peut-être surtout à leur défense de fer, à leur science du grattage, ils ont été énormes dans ce domaine. Loin d'être un match facile pour les Bordelais, donc qui ont subi les vagues anglaises, qui ont campé dans le camp bordelais, mais qui ont su se montrer chirurgicaux en bonifiant quasiment tous les ballons récupérés. Parmi les principaux artisans de la victoire bordelaise, je le disais, leur capitaine et demi de mêlée, Maxime Lucu, qui a été de tous les bons coups ce dimanche, inscrivant un essai, réalisant le sans faute au pied avec 6 coups de pied réussis sur 6, dont 2 transformations complètement au coin, mais également un jeu au pied d'occupation de haut niveau, des sorties de camp du même acabit ou encore une défense de fer autour des rocs et sa science du grattage. Il a réalisé une prestation parfaite, on pourrait le dire, qui lui a valu d'ailleurs d'être désigné homme du match. Prestation saluée comme il se doit par celui qui commentait le match pour France Télévisions, Dimitri Yachvili, qui est notre invité aujourd'hui entre les poteaux. Salut Dim, merci d'être avec nous.
Bonjour monsieur, c'est un
plaisir. Salut Dimitri, ça fait plaisir de t'avoir. Toi qui es notre compagnon lors des matchs du tournoi.
L'ancien puciste entraîné par Vincent Moscato.
Ah, c'est vrai qu'il était entraîné par Vincent. C'est peut-être et entraîné aussi par Jean-Michel Larquet, lorsqu'il était jeune, pour taper au pied, non?
Ouais, ça, il faut qu'il nous le dise, mais bon, c'est pas Jean-Michel qui butait à ta place.
Mais on en avait fait des tonnes, je me rappelle, Dimitri, il y a quelques années de ça. Hein
oui, en effet, ça a été un grand apport pour moi, parce qu'on se voyait une fois par semaine, et il est toujours bon d'avoir un œil extérieur, alors même si c'est pas le même ballon, ça reste une frappe qui est à... qui est à détailler, je dirais. On a tout vu dans le détail. Il m'a fait beaucoup évoluer et il m'a beaucoup appris sur et en dehors du terrain d'ailleurs.
Vous étiez en avance. Hein.
Je garde de très bons contacts. Ben ouais, en fait, lui, il comprenait pas comment un buteur qui à l'époque représentait parfois 80 ou 90% du résultat d'une équipe n'avait pas un entraîneur spécifique. C'est comme vrai. Ça peut se faire dans d'autres sports, notamment les goals au foot ou dans d'autres disciplines. Quoi.
Ouais. Jean-Michel, ouais. Qui est un passionné de rugby, il est presque plus passionné par le rugby que par le foot. Il m'envoie régulièrement des textos comme ça pendant les matchs. Et donc, on le salue et on l'embrasse. Alors, Dimitri, on a voulu t'inviter pour justement évoquer le cas de Maxime Lucu, qui a quand même quelques accointances avec toi, puisque j'ai découvert ce week-end qu'il avait été spectateur lors d'une demi-finale de... Alors, à l'époque, c'était la H-Cup. C'était en 2006. Et c'était le Biarritz Olympique qui jouait
Cardiff.
Face à Basse. Justement,
ah non,
demi-finale, et il était jeune, c'était il était cadet, je crois, à l'époque, et il était.
C'est un basque, un Maxime Lucu.
Ah bah oui, bien sûr, basque, un vrai basque. Il était supporter du BO, et sur le terrain, il y avait qui? Il y avait Dimitri quand même. J'imagine que ça, vous avez dû en parler de ça plus tard, Dimitri.
Oui, moi je le connais depuis un petit moment maintenant. Quand je finissais ma carrière, il était encore en junior. Il commençait à pointer le bout de son nez et on sentait qu'il avait un vrai potentiel. Mais depuis, on s'est recroisés, on discute très souvent. Et oui, en effet, il est toujours supporter du Biarritz Olympique puisqu'il en a porté les couleurs et très bien porté pendant des années.
Oui, alors justement, tu dis vrai potentiel, Dimitri, c'est intéressant parce que quel regard tu as aujourd'hui par rapport à celui que tu voyais jeune? Est-ce que tu penses, tu aurais imaginé qu'il fasse un tel parcours et arriver à ce niveau international qui est le sien aujourd'hui?
Imaginez, tu sais, quand tu vois des jeunes, tu vois certains qui ont des capacités techniques hors normes ou certains des capacités physiques. Lui, techniquement, il avait quand même la panoplie du demi-mêlée. C'était un leader. On sentait qu'il était leader de jeu. Après, de savoir à 16 ans si tu vas passer le cut ou pas, c'est extrêmement compliqué.
Oui, c'est compliqué, oui.
Mais il s'est construit quand même une carrière qu'on peut dire assez atypique parce qu'il est parti à l'UBB, il avait 26 ans, je crois, où il était dans sa 27e année. Voilà, il a fait 6 ou 7 saisons en Pro D2 à Biarritz où il s'est construit. Et après, il a explosé véritablement à l'UBB où il s'est imposé en tant que leader de jeu de par son rôle de demi-mêlée, bien entendu, de capitaine ensuite, son rôle de buteur également. Donc, ça lui donne une légitimité énorme auprès du staff et du groupe et même de la ville de l'UBB parce qu'on voit c'est quand même un personnage maintenant, hein. il est un peu l'emblème de la ville. En ouais. plus, il y a eu ce titre de Champions Cup l'année dernière. Donc il a un parcours bien sûr, je le suis de près parce qu'il a porté les maillots du BO et c'est quelqu'un que j'apprécie en plus particulièrement que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain parce qu'il sait d'où il vient. Et petit rectificatif, il est né à Saint-Jean-de-Luz, mais il est originaire de Saint-Pé-sur-Nivelle.
Ah oui, oui,
c'est vrai. C'était la première.
Ah oui, alors c'est encore plus basque. Dans
Saint-Pé-sur-Nivelle, oui. Non, c'est l'intérieur.
Maxime Lucu, il a débuté le rugby avec notamment Charles Olivon. Ils sont de la même génération. Famille
exactement.
Olivon, famille Lucu.
Charles est de Saint-Pé-sur-Nivelle aussi.
Aussi.
Ouais, exactement. Et pour en avoir parlé beaucoup avec Maxime, ce qui est assez dingue dans sa carrière, c'est qu'il a toujours réussi à élever le curseur alors qu'on l'attendait peut-être pas.
Ah oui, tu as
à un certain niveau. Oui. Quand il rentre au BO, on lui dit tu vas pas franchir le cap du professionnalisme. T'es bien, mais il te manque plein de choses. Il s'installe au BO, il devient un des leaders du Biarritz Olympique. Il part à l'UBB. Pour Christophe Furios, c'est limite le troisième choix. Christophe Furios, il en voulait pas trop de Maxime Lucu. C'était l'ancien manager qui l'avait fait signer. Et puis finalement, il s'impose, ça devient un des leaders de Christophe Furios. Derrière, il va en équipe de France. Alors, on était tous un peu sceptiques. Est-ce qu'il allait réussir à s'imposer? Et finalement, dès que Antoine Dupont a été absent, blessé et tout ça, Maxime Lucu, il a réussi à tenir ce statut de demi-mêlée titulaire des Bleus. Donc en fait, il a toujours réussi à je vais pas dire à surperformer, mais en tout cas à se hisser au niveau des attentes. Et c'est ça qui est assez dingue avec ce joueur-là. Et Dimitri le disait très bien. Yannick Bru en parle à chaque fois qu'on évoque Maxime Lucu. C'est vraiment l'âme de cette équipe. Au-delà du fait que c'est un joueur leader. Leader, c'est l'âme de cette équipe, c'est le cœur et c'est le corps de cette équipe. Et on détaillera son match d'hier, mais sa demi-finale. Mais elle est à l'image de ce qu'il est, parce qu'il est bon dans tous les compartiments du jeu, en fait. Maxime.
Je pense, Nico, qu'il a jamais été aussi fort. Moi, pour moi, il est au summum de son art. Je pense qu'il a une totale maîtrise de tout ce qu'il faut faire par rapport à son poste. Enfin, je sais pas, Dimitri peut en parler mieux que moi, mais c'est assez étonnant et bluffant de voir à quel point il est en maîtrise.
Après, tu sais, quand t'es capitaine de l'équipe, que t'es buteur, que t'es demi de mêlée, que tu fais tous les lancements de jeu, que tu prépares tous les lancements de jeu de la semaine, parce qu'il fait partie du staff, on peut dire qu'il fait partie du staff technique, hein, c'est un entraîneur sur le terrain, c'est le relais des entraîneurs. Et qu'en plus de ça, hier, il a 12 plaquages, mais j'ai regardé un peu, il tourne entre 13 et 18 plaquages par match pour un demi de mêlée, c'est colossal, quoi. Il plaque plus que hier, il a plaqué plus que Moefana et Damien Penaud au centre. Alors c'est vrai que c'est un peu moins écarté côté anglais, ça jouait beaucoup au pied. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as la légitimité totale de tes coéquipiers, parce qu'il y a pas un secteur de jeu en fait où t'es défaillant, et en plus de cela, tu assumes pleinement ton rôle.
Oui, il faut l'assumer.
Ce
qui est compliqué, c'est de l'assumer. Je dis, Vitry, tu l'as vécu, toi, déjà, mais tu l'as vécu quand tu étais joueur. Mais
bien sûr,
c'est ça qui est le plus dur.
La légitimité des coéquipiers, surtout. Les mecs te suivent, quoi.
Oui,
quand
bien sûr.
Quand tu vas gratter des ballons, il fait 80, je sais pas, il doit faire 85 kilos. Tu vas gratter des ballons,
Non, mais c'est un moteur qui est. Voilà, c'est le Ferrari, quoi.
Et en plus, il est très humble.
Oui, c'est ça.
En plus, c'est un vrai leader.
C'est vrai qu'il a une humilité incroyable, et qu'il a su aussi prendre les critiques, parce qu'elles ont été nombreuses, notamment lorsqu'il a remplacé
il en a souffert un peu, il l'avait dit.
Alors il en a souffert, mais il n'en a pas trop parlé. Ça fait partie là aussi d'une carrière. Dimitri, toi aussi tu as été critiqué en ton temps, mais il faut arriver à assumer tout ça sans finalement que ça déteigne
jamais
trop.
Il a été critiqué, Dimitri.
Jamais,
ouais,
pourquoi, comme tout le monde. Et toi, même toi, Denis Charvet, le grand Denis Charvet, t'as été critiqué.
Mais on est tous critiqués. De toute façon, quand t'es au niveau, t'es obligé d'être critiqué. Et forcément. Puis c'est grâce à ça aussi, parce que bon, maintenant avec du recul, tu le vois différemment, mais quand t'es en pleine carrière et que t'es critiqué, ton premier réflexe, comme sur le terrain, c'est de répondre. Donc t'as envie de répondre vite aux critiques. Lui, c'est encore plus difficile aussi, parce qu'il est dans l'ombre d'Antoine Dupont en équipe de France. Donc il se dit, même si je fais des grandes prestations, Antoine Dupont, ça reste Antoine Dupont, donc il est fort probable qu'Antoine Dupont soit le titulaire, moi je suis derrière. Il arrive quand même à assumer un niveau de performance qui est très élevé. Il baisse pas les bras, quoi, bien au contraire. Après, il s'est pas acharné sur son sort. C'est quelqu'un d'humble. Il vient d'un endroit aussi au Pays Basque qu'on n'aime pas trop, s'acharner sur lorsqu'on est critiqué ou quoi que ce soit. On préfère faire le dos rond, travailler, éprouver, plutôt que s'acharner sur son sort et essayer de se renfermer, quoi. Lui, au contraire, il s'est ouvert, quoi. Il s'est ouvert. Et en plus de cela, il gagne des titres. Parce que gagner la Champions Cup, c'est le premier titre de l'UBB depuis sa création en 2005 ou 2006, je sais plus. Donc, il rentre dans l'histoire, 2006, quoi. Il rentre dans l'histoire du club.
Ouais. Nicolas. Moi, Dimitri, j'ai une question pour toi dans son jeu. Il est excellent sur tout ce qui est sortie de camp, jeu au pied. Probablement avec Antoine Dupont, le numéro 9 là dans le monde qui a le jeu au pied le plus impressionnant. Là où je trouve qu'il a vraiment évolué, c'est dans son volume de jeu. Il est capable de coller au ballon parce que hier il balance encore, je crois, plus de 60 passes sur le match. Enfin, il touche un nombre de ballons incalculable, Maxime Lucu. Il a un volume sur le terrain qui est impressionnant.
Ouais, mais disons que quand tu es acteur premier de l'élaboration des lancements de jeu, tu sais exactement où le ballon va aller, enfin plus ou moins. Quand tu connais très très bien tes coéquipiers, tu sais que certains vont aller essayer de le jouer extérieur, d'autres qui vont prendre l'épaule intérieure, donc tu adaptes toujours ta course et finalement tu es dans l'anticipation au niveau des courses, donc tu n'es jamais vraiment en retard. Lui, ce qu'il a en plus, moi je trouve, ce qui me fait halluciner quand j'ai vu les stats, c'est qu'il a, je te dis, il est entre 13 et 18 plaquages en moyenne par match. Donc en plus de la course, de la lucidité,
la débauche d'énergie,
et du rôle de buteur qui est extrêmement compliqué, Il a en plus de cela des épreuves de force et de combat avec
oui.
les
oui, parce que ça, et de grattage. Ça ne te laisse pas un dingue, ça. De plaquer mais autant, ça, c'est un des...
C'est pour ça que je parle de maîtrise, c'est qu'il garde sa lucidité tout le match. Quoi. Il a jamais...
Après, il est en forme, il n'a jamais été en surpoids. Je pense qu'il fait attention aussi en dehors du terrain. Voilà, c'est un pro.
C'est oui, c'est un pro, mais il doit avoir un cardio énorme, à mon avis.
Ah oui, c'est un gros moteur. Je peux te dire sur les séances d'entraînement, c'est un gros moteur.
Oui, non, mais pour garder cette lucidité comme ça, c'est vrai que c'est ça qui m'impressionne le plus en fait. Le fait qu'il sorte jamais du match, qu'il y a pas un mauvais geste, il y a pas un mauvais choix, très rarement. Hein, mais hier,
et puis Denis, tu sais ce qui est impressionnant avec lui, c'est sa régularité au plus haut niveau depuis 2-3 ans. Parce que là, en effet, hier, il est mis en lumière, meilleur joueur du match, demi-finale de Champions Cup. Mais des performances comme ça de Maxime Lucu, et moi, je le commande.
Il a été un peu moins régulier au pied quand même pendant quelques semaines. Là, c'était un peu... Hier, il fait un 100%. Peut-être. Non, mais attends, on va chercher la petite bête, hein, là, Nico. Là.
Peut-être, mais je t'assure que sur les 2-3 dernières années, il y a très rarement eu du déchet dans le jeu de Maxime Lucu. Je me suis très rarement retrouvé à la fin d'un match de l'UBB en me disant, là, il est passé à côté, que ce soit dans l'animation, dans les sorties de camp, défensivement, il s'est caché, ouais. Tu ne l'as pas vu. Et il est d'une régularité impressionnante, Maxime Lucu, franchement.
Ouais, c'est vrai, Dimitri, que de toute façon, le 9 et le 10 sont toujours des joueurs qu'on observe pas au microscope, mais à la loupe, dans tous les matchs. C'est quasiment les postes les plus importants, les plus visibles quelque part. Donc quand tu trates, quand t'es ennemi de mêlée au demi d'ouverture, ça se voit tout de suite. Hein.
Ah ben c'est sûr. De toute façon, le 9, c'est celui qui touche le plus de ballons par match. Hein. Ça, c'est toute division confondue. C'est le cœur du réacteur. C'est le poste charnière d'une équipe. C'est le poste à responsabilité aussi. C'est lui qui appuie sur les boutons, qui annonce les combinaisons, qui doit connaître toutes les combinaisons d'ailleurs, que ce soit celle des trois quarts ou celle des avants. Donc il a une grande responsabilité sur le dos. Et en plus, c'est pour l'avoir vécu, quand tu as la responsabilité du tir au but, ce qui est pas facile du tout, parce que pendant que tes coéquipiers sont en train de récupérer, toi, tu es en train de te concentrer pour marquer 3 points de plus. D'ailleurs, hier, ça a fait la différence, parce qu'il a fait 100%. Et Finn Russell en a loupé 2, je crois, 4 points ratés. Donc ça prouve qu'il est en forme d'état de grâce, quoi. Il y a rien qui ne l'atteint actuellement. Et puis il faut signaler aussi, parce que demi de mêlée, tu dépends aussi de la qualité de la performance de tes gros, de tes avants. Et force est de constater que depuis des mois, voire des années, le paquet d'avants de l'UBB commence à faire mal. Il a quand même des très bons ballons. Ça ferraille devant, les ballons sont propres. Quand les sorties de balles, elles sont quand même assez propres du côté de l'UBB. Donc pour un demi de mêlée, c'est du bonheur. Quoi.
Ouais. Mais c'est un demi de mêlée, quand on t'écoute, finalement, on réalise, c'est quelqu'un qui ne débranche jamais pendant les 80 minutes. Souvent d'ailleurs, vous faites le match en entier. Hein, ou alors vous êtes remplacé, mais vraiment en toute fin de match. Quand tu butes en plus, donc tu dois te concentrer là-dessus, tu plaques. Enfin, je veux dire, tu n'arrêtes pas. Quoi.
Ouais, t'as raison de signaler que c'est le plus beau. D'ailleurs,
tous les deux mêlés se ressemblent et ont le même caractère, Christophe.
Tu trouves?
Ah oui.
Tu trouves que Dimitri a le même caractère que Fabien Galthié, par exemple?
Mais non, mais au niveau, je parle pas au niveau de la personnalité pure. Je parle de l'aspect compétitif du compétiteur qu'ils sont. Ils sont différents. Ouais, ils sont différents.
Ouais,
ils sont
le leadership, t'es obligé d'être leader.
Dans leur approche,
c'est un poste à part.
Après, tu sais, Denis, on n'est pas les plus rapides, on n'est pas les plus costauds de l'équipe, donc on est obligé aussi de s'en sortir par le côté technique, la technique individuelle, le côté leadership aussi, le côté brancher l'adversaire,
voilà,
parler à l'arbitre,
provocateur,
tu vois, on a un peu la grande
toujours,
gueule.
Oui, la grande gueule. Voilà, ils se ressemblent tous.
Ouais. On fait avec ce qu'on a. Hein.
Mais nous aussi, on en a un. Demi de mêlée, c'est Templier quand même.
Ah oui, Templier.
Tu vois, c'est le taulier aujourd'hui. C'est le taulier aujourd'hui. C'est un œuf, encore une fois. Tu vois, c'est pas
un poil trop émotif.
Oui, mais c'est pour ça qu'il a pas été au plus haut niveau quand même. Lucu qui a également eu le bonheur de porter le maillot bleu à 30 reprises depuis 2021, en profitant ou non d'ailleurs des blessures d'Antoine Dupont, une équipe de France où il a toujours été considéré, Dimitri, comme un remplaçant. Est-ce que c'est injuste pour toi, ou alors c'est malheureusement le fait pour lui d'être né dans la même génération qu'un garçon qui est considéré comme un prodige dans le monde du rugby,
meilleur joueur du monde
et,
aussi
est meilleur joueur du monde, qui a été désigné meilleur joueur du monde. Injuste ou finalement logique qu'il n'ait été que le remplaçant d'Antoine?
Injuste, on ne peut pas parler d'injustice en mettant Antoine Dupont titulaire de l'équipe de France. Je pense que ce serait presque insulter Antoine Dupont. Vu les performances de Maxime ces dernières semaines et celle d'Antoine qui a l'air un petit peu moins bien qu'il ne l'a été avant sa dernière blessure. Mais je pense pas qu'on puisse parler d'injustice. La comparaison est très compliquée parce que c'est pas du tout le même profil de joueur. Ils jouent pas dans les mêmes équipes, pas dans le même dispositif tactique non plus. Antoine Dupont a des qualités que Maxime Lucu n'a pas. Maxime Lucu a des qualités et des aptitudes, notamment avec l'UBB, que n'a pas forcément Antoine Dupont, parce qu'il compense différemment. Il a quand même, on dit souvent qu'il a des super pouvoirs. C'est assez rare qu'un demi de mêlée puisse faire tout ce qu'il a fait depuis des années sur un terrain. Enfin, si t'entraînes des gamins, tu peux pas lui dire fais comme Antoine Dupont. Tu peux pas dire à ton demi de mêlée fais comme Antoine Dupont. C'est pas possible parce qu'il a des qualités physiques qui sont hors normes et techniques aussi. Mais disons que Antoine Dupont, déjà, il joue dans une équipe où il y a beaucoup de stars, beaucoup de joueurs qui sont capables de faire la différence. L'UBB est plus un collectif, sans enlever la qualité, sans minimiser la qualité des joueurs du groupe, mais il est plus fondu dans le groupe, si tu veux, Maxime Lucu à l'UBB. Et il en est partie prenante, quoi, en fait. Maintenant, parler d'injustice parce qu'il joue pas titulaire. Je pense qu'Antoine Dupont est un peu moins bien actuellement. Je sais pas si c'est physiquement ou mentalement. Mais on sait aussi, Antoine Dupont, s'il récupère et qu'il commence à prendre un peu la colère et qu'il commence à retrouver sa forme à 100%, il peut faire aussi très très mal. Moi, j'aime pas trop comparer.
Oui.
Derrière Zidane, il y avait des très bons joueurs aussi. Est-ce que c'était une injustice si Zidane était un peu moins bien alors qu'il était titulaire? Je pense pas, parce que ce sont des joueurs qui sont hors normes et qui sont capables aussi de faire la différence à des moments où on les attend pas, quoi, en fait.
Mais c'est pas lui faire injure que de dire de Lucu qui est le remplaçant d'Antoine Dupont. Pour moi, c'est vrai qu'Antoine est un peu moins bien en ce moment, mais Antoine reste le super joueur que l'on connaît. Il va revenir physiquement dans la partie. On l'attend. Je pense que les phases finales, dans un mois, là, on verra un nouvel Antoine Dupont.
Et le fait d'être chatouillé comme ça, justement, qu'on commence à poser des questions, est-ce que le Garec, est-ce que Serein ne sont pas en train de prendre le leadership, ça peut aussi le titiller, non, l'orgueil du champion, Dimitri?
Bah, bien sûr. Et puis c'est comme ça qu'on se remet en question aussi. Hein. Oui, c'est quand déjà les résultats de l'équipe, parce qu'ils ne se sont pas qualifiés, ils ont perdu à l'UBB en quart. Donc forcément, quand tu es le Stade Toulousain, que tu as, on peut dire, un concurrent direct, hein, même s'il y a le Garec qui est rentré dans la concurrence, que tu as Maxime Lucu qui fait des gros matchs, tu as envie de... Puis ce sont des orgueilleux, les Toulousains aussi. Hein, ils se nourrissent aussi beaucoup là-dessus. Oui. Donc je suis un peu comme Denis. Moi, j'espère qu'il retrouvera son niveau, parce que quand t'aimes le rugby, t'as envie de voir Antoine Dupont à 100%. T'as envie qu'il y ait de la concurrence. Je crois que c'est un problème de riche aussi d'avoir tant de demi de mêlée. Mais encore que dans l'histoire, là, sur ces 20-30 dernières années, il y a quand même eu beaucoup de concurrence à ce poste. Hein. Il n'y a pas les paires Stringer-O'Gara, ça s'est pas vu en France. Tu vois, des paires qui restent longtemps sur plusieurs années. Et comme tu le disais, Christophe, d'ailleurs, tout à l'heure, c'est souvent les fusibles idéales. Hein, la charnière, le numéro 9 ou le numéro 10, quand ça va pas, souvent on fait péter le numéro 9. Mais là, quand tu vois la qualité des deux, des trois même, parce qu'il y a Nolan Le Garec qui rentre aussi dans la concurrence, c'est tant mieux. Quand t'aimes ce sport, et moi en particulier, je regarde avec plus d'attention le rôle du demi de mêlée, dans son ensemble, moi ça me fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça, quoi.
Bien sûr. Nicolas, t'as une question?
Tiens, Dimitri. Ouais, j'avais une question. Tu parlais tout à l'heure des qualités de Dupont qui différaient avec celles de Lucu. Comment tu décrirais un petit peu les deux profils? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Dupont, c'est plus un impact player. Il est capable de faire des diffs à lui tout seul. Et Lucu, il est plus sur les fondamentaux du poste.
Bon, les deux sont sur les fondamentaux, mais Antoine a une capacité physique à pouvoir casser des plaquages proches des rucks, à faire des démarrages, à se retrouver avec sa vitesse plus rapidement, je pense, que Maxime Lucu à l'intérieur de son ailier, parce qu'il anticipait sa course, qu'il est capable de marquer des essais et d'effacer des joueurs. Il a plus de qualité dans le duel, en fait, pour moi, Antoine Dupont.
Ouais.
Maintenant, dans l'organisation générale... Maxime Lucu, il remplit son rôle de demi de mêlée par rapport au dispositif tactique que met en place Yannick Bru pour son équipe, qui est un éjecteur remarquable. C'est pas dit qu'Antoine Dupont réussisse s'il portait le maillot de l'UBB, je sais pas.
Tu as raison.
Mais en tout cas, pour les différencier, il y a la qualité physique de puissance et de vitesse qui est au-dessus pour moi du côté d'Antoine Dupont. Mais en termes de leadership, tu ressens plus le leadership côté Maxime Lucu avec l'UBB que Antoine Dupont avec le Stade Toulousain, quoi, en fait.
Parce qu'il y a plus plus de stars, donc c'est ce que tu disais.
Il se différencie autrement, quoi.
Oui, il y a plus de. Ouais, plus c'est vrai que il y a plus un collectif à Bordeaux que quand je dis collectif c'est pas péjoratif.
Tu comprends ce que je veux dire, c'est pas
Toulouse c'est une ribambelle de stars à Toulouse. À Bordeaux il y en a aussi quand même, hein, aujourd'hui Jalibert, Lucu,
commence à y en avoir,
Bielbiarré évidemment, Penaud, c'est quand même là aussi c'est les stars de l'équipe de France qui sont là. C'est moins, enfin peut-être que c'est il y a plus la notion de collectif sur l'UBB, mais je pense qu'on
oui,
est pas
loin. Oui, c'est juste une notion. Après, que le Stade Toulousain soit collectif, évidemment, ils sont collectifs, mais c'est la notion de collectif et penche davantage vers l'UBB. Ouais.
En tout cas, quelle densité au poste de numéro 9 en France, Dimitri. Bon, ça a toujours été le cas à ton époque. Toi, t'étais en concurrence avec qui ? Avec Elissal. Il y avait Galtier qui était en fin de carrière.
Pierre Mignoni. Ouais, Fabien qui a arrêté lui en 2002 après la demi-finale en Australie. Ouais. Et ben après t'as eu Jean-Bas, t'as eu Pierre Mignoni, après il y a eu Morgan Parra.
Morgan Parra qui est arrivé à la fin.
Il y a eu du monde. Hein. Julien Dupuis, il y en a eu. Hein. Ouais,
et là, c'est pas mal aussi. Lucu Dupont, on en a parlé. Le Garec.
Voilà.
Baptiste Jolot qui a fait un match incroyable l'autre jour au Stade Toulousain.
Aussi, lui pointe le bout de son nez. Ouais. Donc ouais, on est bon formateur de demi-mêlée en France.
C'est incroyable.
Comment on explique
génération, je sais pas.
Non, mais c'est pas une génération. Je pense que c'est une question de culture française, non, Dimitri, pour ce poste-là.
Ouais, difficilement expliqué. Il y a des années, on formait beaucoup de piliers aux Pays-Bas. Tu vois, il y en a plus beaucoup ces derniers temps, même si ça revient un petit peu. Je sais pas. Je pense que c'est générationnel. Il y a eu un trou au poste de 10, là au poste de pilier droit, tu vois, mais au poste de demi-mêlée. Je sais pas.
Il y a dû avoir des trous en demi-mêlée. On ne fait pas l'histoire.
Il n'y a pas eu beaucoup de trous quand même. Il y a toujours eu des grands neufs français. Quoi, hein.
Tu reprends depuis ta génération, Denis. Tu as quand même Berbiz, tu avais Sens. Après, tu as eu Gallion. Enfin, t'imagines le truc. Après, tu as eu Carbo avec Philippe Carbonneau, Fabien Galtier. Les années 2000, pareil. Ouais. On a beaucoup formé de neuf.
Ouais, bah tant mieux, c'est un poste.
C'est le meilleur poste.
tu le mettrais où, le cul, dans la hiérarchie de tous ceux que je t'ai. Tu vas faire ton parade. Vas-y,
fais. Arrêtez avec la hiérarchie.
Vas-y, débrouille-toi, là. Vas-y.
On va demander à Denis, on va voir si vous êtes d'accord. Tiens, Denis, tu le mets où, toi, le cul ?
Aujourd'hui, numéro 2 aujourd'hui.
Numéro 2, donc Antoine toujours en numéro 1.
Si on parle de l'instant présent.
L'instant
présent, aujourd'hui, numéro 2. Vu les prestations, il est incroyable. Et quand il est en équipe de France, il assume et il assure. Il n'y a pas de raison de. Voilà, donc il y a Dupont quand il est en très grande forme ou dans sa forme optimale. Mais là, aujourd'hui.
Le Garec, la semaine dernière, avec La Rochelle, c'était pas mal non plus aussi. Hein,
oui, mais le Garec, mais dans un rôle de leader, je pense que Lucu est devant.
Après, il y a les prestants au club et les prestants en équipe de France. Hein. Il n'y a pas la même pression, c'est différent. Tu as la pression médiatique, tu as la comparaison, tu as les médias étrangers aussi. Tout est différent, quoi. Mais quand même, le rugby français, quand tu regardes, tu gagnes quand même le tournoi cette année. Tu as une équipe en finale de Challenge Cup, une équipe en finale de Champions Cup. Bon, le rugby français, je peux dire, se porte bien actuellement. Quoi.
Moi, je mets le Garec derrière, mais le Garec, quand il rentre en équipe de France, il est toujours très très bon, il est même excellent. Souvenez-vous, l'année dernière, ou il y a deux ans, il fait des prestations énormes. Je ne sais plus quand est-ce que c'était.
Non, mais Lucu, il a quelque chose pour lui, c'est que maintenant, le numéro 10 de l'équipe de France, là, depuis 3-4 mois, c'est Mathieu Jalibert.
Il va falloir faire une autre émission. Là,
on va comparer les charnières maintenant. Comparons les charnières, s'il vous plaît.
Le numéro 10. Moi, je n'ai pas joué 10.
Non, mais d'ailleurs, Dim, tu le places où, Lucu ? Si tu es 2-3, autour.
Bah, actuellement, quand tu es homme du match en demi-finale, que tu fais 12 plaquages, que tu marques 18 points, que t'es capitaine, buteur, que t'arrives en finale pour défendre ton titre, t'es sur le podium, quoi. Après, ouais.
mais t'es obligé, t'es en haut de la pyramide, voilà.
Bien sûr.
Il y a trois marches sur le podium.
Oui.
Bon. Oui, ben oui.
Non, mais c'est impensable d'imaginer le 15 de France sans Antoine Dupont, sans le capitaine.
Oui, oui, bien sûr, mais là, c'est ce qu'on dit.
Moi,
je vous ai dit numéro 2, j'ai pas dit numéro 1.
Ouais, mais ça, c'est ton cœur toulousain qui parle.
Non, 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 c'est pas mon cœur toulousain, c'est que l'autre, c'est un phénomène. Voilà, j'ai toujours dit qu'il continuera à l'être, je l'espère, et qu'il va retrouver vite son meilleur niveau.
Alors, si Lucu n'a jamais semblé aussi fort qu'actuellement, il n'empêche que le temps passe, hein. Il a 33 ans, il se voit concurrencé, on l'a vu, par toute la jeune génération. Dimitri, tu penses que s'il reste à ce niveau, il sera de l'aventure de la Coupe du Monde 2027 ou que Fabien pourrait tenter justement d'apporter déjà la nouveauté, la jeune génération?
Moi, je pense qu'on a eu un élément de réponse sur le dernier tournoi, il a intégré, intégré Nolan Le Garec. Moi, j'ai pas tendance à regarder la carte d'identité avant de sélectionner un joueur. Si un mec est bon à 33, 34 ans, je vois pas pourquoi tu le sélectionnerais pas. Surtout qu'il connaît le dispositif de jeu du 15 de France. Juste le problème qui va, enfin, le problème, le questionnement.
Il y a 3 demi-mêlées ou 2?
Non. Bah, ça dépend. Si t'as un, normalement, dépend, c'est 3. Après, si t'as un polyvalent, mais là, j'en vois pas. Je pense qu'il en prendra 3. Après, il a 33 ans, donc quand tu arrives dans la 34e année, c'est là où tu peux aussi commencer à avoir quelques pépins physiques ou avoir des problèmes d'enchaîner les hautes performances, tu vois. Parce que là, il joue beaucoup, hein, Maxime, il enchaîne les
là,
les
ça ne lui pose pas de problème. Tu as raison.
Non, mais
après, il s'est blessé cette année. Pour la première fois, et c'est pour ça qu'il est frais d'ailleurs.
Oui, il a loupé le tournoi, le début du tournoi.
Sa grande... Et puis même en début d'année, il s'est fait mal au pouce en préparation, donc il a raté un petit peu le début de saison. Il a eu un pépin à la cuisse au moment du tournoi des Destinations. Alors que t'as raison, Dimitri. Maxime Lucu enchaînait les matchs, mais c'était le joueur qui jouait le plus sur les trois dernières saisons de l'UBB, depuis qu'Yannick Bru est arrivé.
C'est ça. Donc, est-ce qu'il va faire la Coupe du Monde? J'ai pas la réponse, bien entendu. Mais vu ses performances là actuellement, tu te dis, ce serait con de se priver d'un potentiel comme ça, quoi.
Bah non, puis, il a la confiance.
Coupe du
Monde,
c'est dans un an et demi. Hein.
Il a la confiance de Fabien. C'est un soldat de Fabien, hein, quand même. Ouais. Je veux dire par là, c'est que il le mérite. Hein, c'est pas
mais bon, les soldats de Fabien, on a vu que quelques-uns avaient été mis sur le taux d'exécution, quand même. Hein.
C'est faux, pas un gage. J'en reviens à ce qu'a dit Dimitri. S'il est à ce même niveau dans un an, il y aura la question ne se posera pas.
Ouais. Maxime Lucu, qui aura l'occasion dans 3 semaines donc de soulever une deuxième fois la Coupe des Champions, dans un lieu sacré pour tout Basque, hein, qui se respecte. Dimitri, t'es pas né au Pays Basque, mais t'es Basque, t'es plus Basque que les Basques.
D'adoption.
Ça représente quoi pour quelqu'un un rugbyman originaire de la région d'aller à San Mamés? C'est quand même une cathédrale.
Ah, c'est chouette. Alors, c'est pas le historiquement en termes de rugby, c'est plus à Noeta, puisqu'on avait commencé dans les années 2000 à y jouer. Là-bas, c'est la Biscaye, c'est plus le foot, même si le rugby se développe énormément. Mais c'est la cathédrale, hein, c'est le rendez-vous, le stade est juste splendide. J'étais d'ailleurs il y a pas très longtemps avant le PSG, c'était l'année dernière. Maxime va être content parce que les couleurs c'est rouge et blanche en plus de ce stade. Donc c'est un super rendez-vous. On avait eu l'expérience, je sais pas si vous y étiez en 2018 pour la finale du Racing.
Ouais, Racing.
C'est top, c'est génial quoi. Moi je suis très content de
moi aussi,
d'aller là-bas le 21 mai.
Ouais, et puis un stade quasiment, c'est pas comme à Cardiff mais pas vraiment très proche du centre-ville.
Elle est dans le centre.
Plein centre. Très bien. Finale, donc ils vont affronter la province du Leinster qui va disputer sa 9e finale de la compétition. C'est une de plus que le Stade Toulousain. Oui, mais les champions de France en ont remporté 6 pour 4 seulement aux Irlandais. Le Leinster qui a tremblé face à Toulon, qui a peut-être un peu attendu, trop attendu avant de commencer à jouer. Est-ce qu'ils peuvent nourrir des regrets pour toi, Dimitri? Là aussi, tu commentais le match pour France Télé avec Mathieu Lartaud.
C'est quoi ta question, pardon?
Est-ce qu'ils peuvent nourrir des regrets et est-ce qu'ils n'ont pas trop tardé à jouer finalement ou à les Toulonnais? Et puis est-ce que Serein aurait pas dû rentrer un peu plus tôt et être titulaire dès le départ?
Ouais, alors après le match, on peut toujours faire des.
C'est toujours facile.
Mais en effet, c'est ce que je me suis dit parce que Ben White, on en parlait en off tout à l'heure avant l'émission. Ben White, on sentait dès le début du match, il avait plus de déchets qu'il n'en avait. Ces dernières semaines, voire ces derniers mois, parce qu'il fait quand même une sacrée saison avec Toulon. D'ailleurs, le 8e et le quart, c'est lui qui joue titulaire et Baptiste remplaçant. Il aurait peut-être pu le faire rentrer un peu plus tôt. Moi, je pense que ça s'est joué sur des détails. J'ai en tête ce Marc qui n'a pas été annoncé par Twic ou vous. Ils étaient à 4 points ou 5 points d'écart. Mm-hmm. Il est dans ses 22 mètres. Il prend le ballon de volée. Il annonce pas Marc. Il sort en touche. Sur la touche, Leinster Marc, il crée le break. Moi, je trouve dommage que Dréan touche 3 ballons parce que sur les 3 ballons qu'il a touchés, il a fait la différence dans un essai marqué. Et il aurait pu faire marquer le dernier essai sur sa remise intérieure. D'ailleurs, je crois que c'est Twic ou vous qui arrive. Ah, ils ont été un peu, je trouve qu'ils ont été un peu tactiquement, je pense qu'ils auraient pu les jouer un peu plus sur les extérieurs. Ils ont quand même deux bombes sur les ailes avec Twikouvou et Dréan. Ils ont pas été assez servis.
Dim, qu'ils ont fait un petit complexe, mais ça, c'est mon ressenti, et qu'ils auraient dû attaquer le match différemment.
Peut-être. Après, tu sais, ils ont gagné à Glasgow comme ça, sur une grosse défense, une interception, je sais plus, c'est Brex qui marque là sur 50 mètres. Mais ils ont quand même eu tactiquement, ils étaient quand même sur de la défense et sur des ballons de récupération. Quand tu arrives en demi-finale, tu es obligé de proposer autre chose offensivement.
Oui, quoi,
en
fait.
Mais même le Leinster, à part dans les 22 mètres adverses, je trouve pas qu'il joue beaucoup, qu'il garde beaucoup le ballon. Hein. Il le faisait il y a quelques années. Je sais pas s'il a un problème
différemment maintenant, ouais.
Physique, mais il garde moins le ballon sur des longues séquences de jeu, quoi. Par contre, quand ils ont le ballon dans les 22, ça envoie. Hein. Et d'ailleurs, tu l'as
ça
vu,
pique,
je crois que
oui.
Tous les essais qu'ils marquent, c'est sur des lancements dans les 22 mètres. Hein. Il n'y a pas un lancement où ils sont sur les 50, où ils enchaînent et ils marquent à la fin. Quoi.
Non, ils ont gardé cette force-là, effectivement, collective, quand ils sont dans les 22. Mais après, je les ai trouvés un peu décevants quand même. Dès que tu les presses, dès que tu arrives à leur mettre de la pression, c'est plus les mêmes. Pour moi, c'est différent.
Par contre, je pensais que Toulon allait les bouger un peu plus en mêlée. Ils ont eu quelques difficultés.
Mais alors, apparemment, ils ont été mal arbitrés, soi-disant.
C'est pas mal ce du toit là.
Non, mais l'arbitre. Non, mais il parlait juste que l'arbitrage n'est pas le même en Coupe d'Europe qu'en Top 14.
Mais à Glasgow, ils avaient été bien arbitrés. Hein. Là, ils ont ils ont perdu de 4 points. Non, mais c'est souvent pareil. Mais bon, je trouve que Sinclair a eu des difficultés. Je pensais pas. D'ailleurs, je pensais qu'il allait prendre le dessus.
C'est là où il le perd le match.
Votre favori, messieurs, tous les trois pour
Bordeaux.
Pour cette finale, Bordeaux.
Gros avantage. Non, c'est pas
gros
le.
Avantage.
Ouais, gros avantage. Ouais. Je pense qu'ils sont. Je les vois pas perdre.
Dimitri.
Ouais, moi aussi. Moi, je pense qu'ils sont favoris comparé à l'année dernière où c'était un peu l'outsider qui arrivait là en finale face à Northampton. Là, de toute façon, ils peuvent pas se cacher puisqu'ils sont tenants du titre. Ils ont fait quand même trois matchs aboutis en huitième, quart et demi. Donc pour moi, ce sont les favoris de cette finale.
Le banc qui est monstrueux. Et le banc du Leinster ne l'est pas.
Il ne l'est plus.
Il ne l'est plus.
Ouais. Bon, Nico, t'es rassuré là. Tout le monde donne l'UBB favori.
Hein? Mais au-delà de ça, je pense que l'UBB, elle a une équipe là qui est formatée et programmée pour disputer et pour remporter cette Champions Cup. Tu le vois dans le profil des joueurs que tu as sur le terrain. Le projet de jeu, il est assumé. Et encore sur la demi-finale d'hier, ils jouent tout à la main. Ils jouent tous les ballons. Ils vont en touche. Ils vont chercher des essais. Des fois, nous, depuis les tribunes, on se dit, mais c'est peut-être, t'es dans un temps fort ou t'as une pénalité alors que t'étais dans un petit temps faible. Va prendre les points au pied.
Oui.
Et non, ils décident de jouer.
Et Mathieu Jalibert qui joue cette pénalité à 10 mètres de son but.
Et ouais, non, mais voilà, ils ont ce grain de folie-là et ils arrivent à faire plier leurs adversaires par leur volume de jeu envoyé, par leur densité physique, par l'apport du banc de touche. Très sincèrement, s'il fait beau à Bilbao, qu'il y a des conditions météo,
c'est là où ça
où on
peut
jouer
au
rugby.
Voilà. Après, le dernier titre remporté par le Leinster en Champions Cup, c'était à Bilbao face au Racing.
C'est vrai, t'as raison. Mais je vois mal quand même le Leinster là, avec les qualités. Attention, hein, sur un match, c'est une grande équipe avec des joueurs monstrueux. Tout peut se passer. Mais sur le papier, avant cette partie-là, je les vois mal être capables de tenir le rythme de l'Union Bordeaux-Bègles. Très
aussi.
Simple.
Après, ils ont la pression l'UBB en championnat, donc ils vont pas pouvoir faire l'impasse sur les deux prochains. Ils vont à Bayonne, ils vont recevoir l'USAP. Contrairement au Leinster, ils sont second.
L'USAP, ils pourront faire tourner un petit peu contre l'USAP.
Peut-être contre l'USAP, mais Bayonne, ça m'étonne.
Bayonne, non, ils vont aller avec la grosse équipe, ils sont obligés de gagner.
Et ça va être intéressant. Ça va être intéressant, les gars, parce que Dimitri, on était au stade hier. Les joueurs étaient quand même rôtis, lessivés. Et j'attends de voir comment ils vont récupérer dans la semaine.
Le match est quand, Nico? Samedi?
samedi, ouais. Et j'aimerais bien savoir ce que va faire le staff de l'UBB, parce que là, t'as un vrai dilemme. C'est donc, ça va être intéressant.
C'est un problème qu'ils n'avaient pas l'année dernière, puisqu'ils étaient qualifiés directement pour les demi-finales du top 14. Rendez-vous donc dans 3 semaines pour un magnifique week-end basque. 2 finales, 2 clubs français concernés. Montpellier qui affrontera les Irlandais de l'Ulster. Et donc, ce sera le vendredi. Et donc, le samedi, l'UBB opposé au Leinster. Des matchs où vous serez, messieurs, Denis avec Nico et Dimitri avec Mathieu. Voilà, on va se régaler, ça va être un magnifique week-end.
Nous tarde d'y être, tu vois.
Ah ouais, ouais, ah franchement, ouais. Là, c'est un week-end excitant.
Vous en avez quand, Denis, le mardi ou mercredi?
Alors, je vais t'avouer, le vendredi, malheureusement. Ça serait que moi, j'arriverai le lundi. Hein.
Ouais, maintenant, avec les économies que va faire France Télé, tu vas voir, il va plus arriver le mercredi non plus.
Ah non, mais c'est fini.
Merci Dimitri,
c'est un plaisir, et à très bientôt.
La bise, merci à toi. Les garçons, on se retrouve la semaine prochaine pour revenir sur le top 14, cette dernière ligne droite. Et rien n'est encore joué.
Non.
Bonne semaine, à lundi prochain.
Ciao.